Chapitre 32. Au plus noir de la nuit, les lumières de Paris sont éteintes, et la tour Eiffel se distingue à peine dans l'immensité obscure qui recouvre la capitale. Le Sacré-Cœur inachevé, ceinturé d'échafaudages, ressemble à un monstre endormi que sa gangue ne parviendra pas à contenir lorsqu'il s'éveillera. Sur son parvis, noblement installé sur les blocs de calcaire en attente, tels des sphinx, des chats veillent. En regard d'une telle masse, l'église historique de Montmartre n'est plus que l'ombre d'elle-même. Le récent calvaire, qui lui a été adjoint, semble bien impuissant à la protéger. Sur leur promontoire de roc, le Christ et ses deux compagnons de crucifixion, figés dans leur supplice, se dressent comme de frêles vigies face à la basilique naissante. Saint-Pierre porte les cicatrices de tous les affronts qui lui auront été infligés. Dernier vestige de l'ancienne abbaye royale qui occupait toute la butte, elle fut pillée et profanée lors de la Révolution, convertie en temple de la raison, puis utilisée comme support pour le télégraphe, occupé par les troupes russes en 1814, et enfin devint magasin et cantonnement avant d'être laissé à l'abandon. Même si des messes y sont à nouveau célébrées de temps en temps, la pluie s'abat par sa toiture éventrée et ses murs fissurés envahis de végétation ne tiennent plus que grâce à des étais placés en contrefort. Sa démolition paraît désormais inéluctable. Escaladant le talus des anciennes fouilles à l'arrière du bâtiment, Vincent se faufile par le petit cimetière qui borde le nord de l'église. Au détour d'un caveau, une silhouette surgit. L'homme, coiffé d'un chapeau droit et vêtu d'un long manteau de cocher en cuir, demande à voix basse. « Mot de passe. » « J'ai rendez-vous avec Charles. » « Le mot de passe. » répète laconiquement l'individu en dégageant une lame du pan de son vêtement. Vincent recule. « Tout doux, l'ami, il m'attend. Il m'a confié ce satané mot de passe, c'est vrai, mais là... » Il se concentre de toutes ses forces. L'homme avance déjà vers lui. Cavel lui souffle in extremis. 15 août. Le mot de passe est 15 août. L'homme range aussitôt son arme et lui fait signe de le suivre. Vincent aperçoit plusieurs autres gardes en faction autour de l'édifice. Tous portent la tenue caractéristique des cochers. Surprenant accoutrement en pareille circonstance. Celui qui l'escorte l'invite à pénétrer dans l'église par le flanc en partie effondré de la sacristie. À l'intérieur, quelques lampes éclairent trois hommes dont les ombres s'étirent sur les murs en piteux état. Ils s'activent à démonter une maçonnerie au fond du chœur. Près d'eux, Vincent reconnaît la silhouette de Charles. Enjambant les débris depuis longtemps tombés du plafond, il avance droit sur lui. « Que font ces hommes, Charles? Ils profanent ce lieu? Est-ce là votre façon de protéger le passé ?»« Pas d'émotion dans l'action, Vincent. » Il faut parfois entailler la peau pour sauver le cœur qui bat encore. Nous sommes obligés d'intervenir en urgence parce que des carriers ont déjà commencé à piller les sols. Il désigne une zone de la nef retournée comme après une charge de cavalerie. Ils volent les dalles? Avec une prédilection pour les stèles funéraires, sans se demander si elles marquent l'emplacement d'un corps enseveli, ou si elles ont simplement été employées comme matériaux. Il pointe son doigt sur une pierre tombale enserrée dans le sol du chœur. Par prudence, nous allons faire déplacer celle de la fondatrice de l'ancienne abbaye, Adélaïde de Savoie. Ces voleurs ne respecteraient pas même une reine de France. Vincent s'indigne. Il faut prévenir les autorités. Les autorités n'ont rien à faire d'une vieille église en ruine et d'une souveraine oubliée. Par contre, on peut compter sur ces mécréants pour revenir se servir. Ils revendront leur butin à des illuminés qui en feront des objets de décoration pour leurs sinistres cabinets occultes. Peu leur importe que l'avis de démolition soit signé ou non. C'est pour cette tombe que vous m'avez demandé de venir? Non, même si elle le mériterait, il y a bien plus important encore. Quelque part autour de nous, est enterré un coffret sur lequel ces pilleurs ne doivent en aucun cas mettre la main. Vincent contemple la désolation qui l'entoure. La dernière fois qu'il est entré ici, Il n'était encore qu'un enfant, accompagné de sa mère, pour une messe payée en l'honneur de son père. Ils n'étaient pas nombreux. Charles lui fait signe de s'approcher. Le lieu est sacré depuis l'Antiquité. C'est ici qu'est né le culte autour de Saint-Denis, le saint auquel l'Église fut originellement dédiée, le premier évêque de Paris. Les fouilles menées récemment ont permis d'y situer une vaste nécropole mérovingienne datant certainement du VIe siècle. L'église est citée en tant que telle dès 1096, voilà près de 800 ans. Peu le savent, mais c'est dans ce lieu, alors qu'il constituait encore le sanctuaire de l'abbaye royale, que le 15 août de l'an 1534, Ignace de Loyola, François Xavier, Pierre Favre et six de leurs compagnons jetèrent les bases de la Compagnie de Jésus. L'ordre des Jésuites? Celui-là même. C'est ici qu'en naquit le vœu et qu'en fut accompli l'acte fondateur. Près d'un siècle plus tard, en juillet 1611, des ouvriers, en perçant les soubassements derrière le chevet, mirent au jour une crypte enfouie, creusée dans le gypse brut. Ils découvrirent un autel rudimentaire, orné d'une croix latine gravée dans la masse. Les murs portaient la trace d'inscriptions que la fragilité du matériau n'a pas protégée de l'humidité. Sans que l'on ne puisse rien déchiffrer, le lieu fut aussitôt considéré comme le refuge des premiers chrétiens, lorsque Paris était encore Lutèce, et devint un lieu de pèlerinage. Invitant Cavel à le suivre, Charles franchit le passage que les ouvriers ont enfin réussi à ouvrir et descend sur le site de l'ancienne crypte. Dans l'un de ses messages écrits durant ses lointains périples, Ignace de Loyola fait mention d'un coffret de la plus haute importance qu'il compte faire parvenir depuis la Terre Sainte à l'un de ses frères. Il demande à celui-ci de le dissimuler sur le lieu de naissance symbolique de leur ordre. Aucune information sur son contenu n'est précisée. Par contre, il préconise un enfouissement dans la crypte cachée. Nous avons conclu que cette petite salle, mise au jour fortuitement bien longtemps après, était déjà connue de lui et de ses compagnons. Nous avons réussi à retrouver trace de la réponse qui lui a été faite quelques mois plus tard, confirmant que sa demande avait bien été exécutée. C'est ainsi que nous savons que, quelque part ici, se cache ce que Loyola a expédié. Vincent évalue le sol de la crypte. Il est composé de larges dalles aux dimensions variables. Certaines, issues de sépultures, portent des inscriptions ciselées. Charles lui pose une main encourageante sur l'épaule. « Nous y voilà, mon ami. C'est là que j'ai besoin de vos talents. » Avez-vous une idée de la taille du coffret? Aucune. Puisque vous ne savez pas non plus ce qu'il contient, pourquoi tant de hâte à l'exhumer? La seule identité de son expéditeur nous incite plus que vivement à le placer en sûreté. À l'époque où il fut enseveli, les jésuites pouvaient croire que sa cachette était sûre parce que située dans une enceinte sacrée considérée comme éternelle. Pourtant, aujourd'hui, même le sacré est remis en cause, et l'endroit est dangereusement compromis. Vincent examine l'air. Vos hommes peuvent-ils faire des sondages du sol? Certes, mais cela exige un temps que nous n'avons pas. D'ici quelques heures, le soleil se lèvera, et personne ne doit savoir que nous effectuons des recherches. Seule votre expérience peut nous permettre de trouver ce qui se cache ici, avant qu'il ne soit trop tard. Apportez-moi davantage de lumière et reculez.